Chapitre 6. Cette belle année 1325. Le printemps de 1325 pour la reine Isabelle fut un enchantement. Elle s'émerveillait des matins ensoleillés où scintillaient les toits de la ville. Les oiseaux par milliers bruissaient dans les jardins. Les cloches de toutes les églises, de tous les couvents, de tous les monastères et jusqu'au gros bourdon de Notre-Dame semblaient sonner les heures du bonheur. Les nuits embaumaient le lilas sous un ciel étoilé. Chaque journée apportait sa brassée de plaisir. Joutes, fêtes, tournois, parties de chasse et de campagne. Un air de prospérité circulait dans la capitale et un grand appétit de s'amuser. On dépensait profusément pour les liesses publiques, bien que le budget du trésor eût montré pour la dernière année une perte de 13 600 livres, dont la cause, chacun s'accordait à le reconnaître, était dans la guerre d'Aquitaine. Mais pour se fournir de ressources, on avait frappé les évêques de Rouen, Langres et Lisieux, d'amendes s'élevant respectivement à 12, 15 et 50 000 livres, pour violences exercées contre leur chapitre ou contre les gens du roi. La fortune de ces prélats trop autoritaires avait comblé les déficits militaires. Et puis les Lombards avaient été sommés une fois de plus de racheter leurs droits de bourgeoisie. Ainsi s'alimentait le luxe de la cour, et chacun marquait de la hâte au divertissement, y recueillant ce premier plaisir qui est de se donner en spectacle aux autres. Comme il en allait de la noblesse, il en allait de la bourgeoisie et même du petit peuple, chacun dépensant un peu au-delà de ses moyens pour n'acquérir rien d'autre que l'agrément de vivre. Il est certaines années de cette sorte où le destin semble sourire, un repos, un répit dans la peine des temps. On vend et on achète ce qu'on nomme superflu, comme s'il était superflu de se parer, de séduire, de conquérir, de se donner des droits à l'amour, de goûter aux choses rares qui sont le fruit de l'ingéniosité humaine, de profiter de tout ce que la Providence ou la nature ont donné à l'homme pour se délecter de son exceptionnelle condition en l'univers. Certes, l'on se plaignait, mais non vraiment d'être misérable, plutôt de ne pouvoir assouvir tous ses désirs. On se plaignait d'être moins riche que les plus riches, de n'avoir pas autant que ceux qui avaient tout. La saison était exceptionnellement clémente, le négoce miraculeusement prospère. On avait renoncé à la croisade. On ne parlait point de lever l'ost ni de diminuer le cours de la livre à la Niel. On s'occupait, en conseil étroit, d'empêcher le dépeuplement des rivières, et les pêcheurs à la ligne, installés en file sur les deux berges de la Seine, se chauffaient au doux soleil de mai. Il y avait de l'amour dans l'air ce printemps-là. Il s'y fit plus de mariages et de petits bâtards aussi que depuis bien longtemps. Les filles étaient rieuses et courtisées, les garçons entreprenants et vantards. Les voyageurs n'avaient pas d'yeux assez grands pour découvrir toutes les merveilles de la ville, ni de gorge assez large pour savourer le vin qu'on versait aux auberges, ni de nuits assez longues pour épuiser tant de plaisirs offerts. Ah, comme on se souviendrait de ce printemps! Assurément, il y avait des maladies, des deuils, des mères qui portaient au cimetière leurs nourrissons, des paralytiques, des maris trompés qui s'en prenaient à la légèreté des mœurs, des boutiquiers volés qui accusaient leurs commis de ne pas faire surveillance, des incendies qui laissaient des familles sans foyer, quelques crimes. Mais tout cela n'était imputable qu'au sort, non au roi ou à son conseil. En vérité, il fallait tenir à bien fait de vivre en 1325, d'y être jeune ou dans le temps actif de l'existence ou simplement bien portant. Et c'était sottise grave que de ne pas l'apprécier assez, que de ne pas remercier Dieu de ce qu'il vous donnait. Comme il aurait mieux savouré son printemps 1325, le peuple de Paris, s'il avait pu deviner la façon dont il allait vieillir. Un vrai conte de fées, auxquels auraient peine à croire quand on le leur raconterait, les enfants conçus pendant ces mois exquis dans des draps parfumés de lavande. 1325, la belle époque, et comme il faudrait peu de temps pour que cette année-là devint le bon temps. Et la reine Isabelle? La reine Isabelle semblait résumer dans sa personne tous les prestiges et toutes les joies. On se retournait à son passage, non seulement parce qu'elle était souveraine d'Angleterre, non seulement parce qu'elle était la fille du grand roi dont on avait oublié à présent les édits financiers, les bûchers et les procès terribles, pour ne plus se rappeler que les sages ordonnances, mais aussi parce qu'elle était belle et qu'elle semblait comblée. Dans le peuple, on disait qu'elle eût mieux porté la couronne que son frère Charles le Bio, bien gentil prince mais bien falot, et l'on se demandait si c'était bonne loi qu'avait faite Philippe le Long en écartant les femmes du trône. Les Anglais étaient bien sots qui causaient souci à si gentille reine. À 33 ans, Isabelle promenait un éclat avec lequel il n'était jouvencelle, si fraîche fut-elle, qui pût rivaliser. Les beautés les plus réputées parmi la jeunesse de France paraissaient se retraire dans l'ombre quand la reine Isabelle avançait. Et toutes les damoiselles, rêvant de lui ressembler, prenaient modèle sur elle, copiaient ses robes, ses gestes, ses nattes relevées, sa façon de regarder et de sourire. Une femme amoureuse se distingue à sa démarche et même de dos. Les épaules, les hanches, le pas d'Isabelle exprimaient le bonheur. Elle était presque toujours accompagnée de Lord Mortimer, lequel, depuis l'arrivée de sa reine, avait fait soudain la conquête de la ville. Les gens qui, l'autre année, le jugeaient sombre, orgueilleux, un peu trop fier pour un exilé, qui trouvaient à sa vertu un air de reproche, ces mêmes gens, soudain, avaient découvert en Mortimer un homme de haut caractère, de grande séduction et bien digne d'être admiré. On avait cessé d'estimer lugubre sa tenue noire seulement rehaussée de quelques agrafes d'argent. On n'y voyait plus maintenant que l'élégante ostentation d'un homme qui porte le deuil de sa patrie perdue. S'il n'était pas chargé d'officielles fonctions auprès de la reine, ce qui eût constitué une trop ouverte provocation envers le roi Édouard, Mortimer, en fait, dirigeait les négociations. L'évêque de Norwich subissait son ascendant. John de Cromwell ne se privait pas de déclarer qu'on avait fait injustice au baron de Wigmore, qu'un roi se montrait peu avisé qui s'aliénait un seigneur de si grand mérite. Le comte de Kent s'était définitivement pris d'amitié pour Mortimer et ne décidait rien sans son conseil. Il était su et admis que Lord Mortimer restait après souper chez la reine qui requérait, disait-elle, son conseil. Et chaque nuit, sortant de l'appartement d'Isabelle, Mortimer secouait par l'épaule Ogle, l'ancien barbier de la Tour de Londres promu à la fonction de valet de chambre, qu'il attendait en somnolant sur un coffre. Ils enjambaient les serviteurs endormis sur le dallage des couloirs et qui ne soulevaient même plus de dessus leur visage le pan de leur manteau, habitués qu'ils étaient à ces pas familiers. Aspirant d'un poumon conquérant l'air frais de l'aube, Mortimer rentrait en son logis de Saint-Germain-des-Prés, accueilli par le blond, rose et attentif Alspaye, qu'il croyait, naïfs amants, seul confident de sa royale liaison. La reine, à présent la chose était sûre, ne rentrerait en Angleterre que lorsque lui-même y pourrait rentrer. Le lien entre eux juré, de jour en jour, de nuit en nuit, se faisait plus étroit, plus solide, et la petite trace blanche sur la poitrine d'Isabelle, où il posait les lèvres comme rituellement avant de la quitter, demeurait la trace visible de l'échange de leur volonté. Une femme peut être reine, son amant est toujours son maître. Isabelle d'Angleterre, capable de faire front seule aux discordes conjugales, aux trahisons d'un roi, à la haine d'une cour, frémissait longuement quand Mortimer posait la main sur son épaule, sentait son cœur fondre lorsqu'il s'éloignait de sa chambre et portait cierge aux églises pour remercier Dieu de lui avoir donné un si merveilleux péché. Mortimer absent, fût-ce pour une heure, elle l'installait en pensée devant elle, sur le plus beau siège, et lui parlait tout bas. Chaque matin, à son réveil, avant d'appeler ses femmes, elle se glissait dans le lit vers la place que son amant avait abandonnée quelques moments auparavant. Une matrone lui avait enseigné certains secrets bien utiles aux dames qui cherchent plaisir hors mariage. Et l'on chuchotait dans les cercles de la cour, mais sans y voir offense, car cela semblait une juste réparation du sort, que la reine Isabelle était aux amours, comme on eût dit qu'elle était aux champs, ou mieux encore, aux anges. Les préliminaires du traité, qu'on avait fait traîner en longueur, furent pratiquement signés le 31 mai, entre Isabelle et son frère, avec l'agrément réticent d'Édouard qui récupérait son domaine aquitain, mais amputé de l'Agenais et du Bazadais, c'est-à-dire des régions que l'armée française avait occupées l'année précédente, et moyennant, en outre, un versement de 60 000 livres. Valois, là-dessus, s'était montré inflexible. Il n'avait pas fallu moins que la médiation du pape pour parvenir à un accord toujours soumis à l'express condition qu'Édouard viendrait rendre l'hommage, ce qu'il répugnait visiblement à faire, non plus maintenant pour de seuls motifs de prestige, mais pour des raisons de sécurité. On convint alors d'un subterfuge qui semblait satisfaire tout le monde. Date serait prise pour ce fameux hommage. Puis Édouard, en dernière minute, feindrait d'être malade, ce qui serait d'ailleurs à peine un mensonge, car à présent, lorsqu'il était question qu'il mît le pied en France, des malaises anxieux l'étouffaient. Il pâlissait, sentait fuir les battements de son cœur, et devait s'allonger haletant pour une heure. Il remettrait alors à son fils aîné, le jeune Édouard, les titres et les possessions de duc d'Aquitaine, et l'enverrait à sa place prêter serment. Chacun en cette combinaison se jugeait gagnant. Édouard échappait à l'obligation d'un voyage redouté. Les Despenser évitaient le risque de perdre emprise sur le roi. Isabelle allait retrouver son fils préféré dont elle souffrait d'être séparée. Mortimer voyait tout le renfort qu'apporterait à ses desseins futurs la présence du prince héritier dans le parti de la reine. Ce parti ne cessait de s'accroître, et en France même. Le roi Édouard s'étonnait de ce que plusieurs de ses barons, en cette fin de printemps, aient eu nécessité d'aller visiter leurs possessions françaises, et il s'inquiétait plus encore de ce qu'aucun ne revint. D'autre part, les Despenser n'étaient pas sans entretenir à Paris quelques espions qui renseignaient Édouard sur l'attitude du comte de Kent, sur la présence de Maltravers auprès de Mortimer, sur toute cette opposition qui gravitait à la cour de France autour de la reine. Officiellement, la correspondance entre les deux époux demeurait courtoise, et Isabelle, dans les longues missives par lesquelles elle expliquait la lenteur des négociations, appelait Édouard « doux cœur ». Mais Édouard avait donné l'ordre aux amiraux et shérifs des ports d'intercepter tout courrier, quel qu'il fût, porteur de lettres envoyées à quiconque par la reine, l'évêque de Norwich ou toute personne de leur entourage. Ces messagers devaient être amenés au roi sous une escorte sûre. Mais pouvait-on arrêter tous les Lombards qui circulaient avec des lettres de change? À Paris, Roger Mortimer, un jour qu'il passait dans le quartier du Temple, accompagné seulement de Halspaille et Ogle, fut frôlé par un bloc de pierre tombé d'un édifice en construction. Il dut, de n'être pas écrasé, au bruit que fit le bloc en heurtant un nez de l'échafaudage. Il ne vit là qu'un banal incident de rue, mais 3 jours plus tard, comme il sortait de chez Robert d'Artois, une échelle s'abattit devant son cheval. Mortimer alla s'en entretenir avec Ptolomée, qui connaissait son Paris secret mieux que personne. Le Siennois fit venir l'un des chefs des compagnons maçons du Temple qui avaient gardé leur franchise en dépit de la dispersion des chevaliers de l'ordre, et les attentats contre Mortimer cessèrent. Du haut des échafaudages, on adressait même de grands saluts, bonnets ôtés, au seigneur anglais vêtu de noir dès qu'on l'apercevait. Toutefois, Mortimer prit l'habitude d'être plus fortement escorté et de faire éprouver son vin avec une corne de narval, précaution contre le poison. Les truands qui vivaient accrochés à la bourse de Robert d'Artois furent priés d'ouvrir les yeux et les oreilles. Les menaces qui environnaient Mortimer ne firent que rendre plus intense l'amour que la reine Isabelle lui portait. Et puis, brusquement, au début du mois d'août, un peu avant le temps prévu pour l'hommage anglais, Monseigneur de Valois, si fortement installé au pouvoir qu'on l'appelait communément le second roi, s'écroula brusquement, à 55 ans. Depuis plusieurs semaines, il était fort coléreux et s'irritait de tout. Particulièrement, une grande rage l'avait saisi au reçu d'une proposition faite par le roi Édouard de marier leurs plus jeunes enfants, Louis de Valois et Jeanne d'Angleterre, qui avoisinaient leurs 7 ans. Édouard comprenait-il enfin la bévue qu'il avait commise 2 ans plus tôt en rompant les négociations sur le mariage de son fils aîné, et pensait-il de la sorte ramener Valois dans son jeu? Monseigneur Charles, par une réaction singulière, prit cette offre pour une seconde insulte et se mit en telle fureur qu'il brisa tous les objets de sa table. En même temps, Il montrait une grande fébrilité dans ses travaux de gouvernement, s'impatientait des lenteurs du Parlement à rendre les arrêts, disputait avec Mille de Noyers des calculs fournis par la Chambre des comptes. Ensuite, il se plaignait de la fatigue que toutes ses tâches lui causaient. Un matin, qu'il était en conseil et qu'il allait paraffer un acte, il laissa choir la plume d'oie qu'on lui tendait et qui balafra d'encre bleue la cotte bleue dont il était vêtu. Sa main pendait auprès de sa jambe et ses doigts étaient devenus de pierre. Il fut surpris du silence qui se faisait autour de lui et ne se rendit pas compte qu'il tombait de son siège. On le releva, les yeux bloqués vers la gauche dans le haut des orbites, la bouche tordue du même côté et la conscience partie. Il avait la face fort rouge, presque violette, et l'on s'empressa de quérir un physicien pour le saigner. Comme l'avait été 11 ans plus tôt son frère Philippe le Bel, il venait d'être frappé à la tête dans les rouages mystérieux du vouloir. On crut qu'il passait, et à son hôtel où on le transporta, l'énorme maisonnée prit l'affairement éploré du deuil. Pourtant, après quelques jours, où il parut présent à la vie plutôt par le souffle que par la pensée, il reprit à demi apparence d'exister. La parole lui était revenue, mais hésitante, mal articulée, butant sur certains mots, sans plus rien de cette redondance et de cette autorité qui la marquait auparavant. La jambe droite n'obéissait pas, ni la main qui avait lâché la plume d'oie. Immobile dans un siège, accablé de chaleur sous les couvertures dont on croyait bon de l'étouffer, l'ex-roi d'Aragon, l'ex-empereur de Constantinople, le comte de Romagne, le père français perpétuellement candidat à l'Empire d'Allemagne, le dominateur de Florence, le vainqueur d'Aquitaine, le rassembleur de croisés, mesuraient soudain que tous les honneurs qu'un homme peut recueillir ne sont plus rien lorsque s'installe le déshonneur du corps. Lui qui n'avait eu, et depuis son enfance, que l'anxiété de conquérir les biens de la terre, se découvrit soudain d'autres angoisses. Il exigea d'être conduit en son château du Perret, près de Rambouillet, où il n'allait guère et qui, brusquement, lui devint cher par un de ces bizarres attraits qui viennent aux malades pour des lieux où ils s'imaginent pouvoir recouvrer la santé. L'identité de son mal avec celui qui avait abattu son frère aîné obsédait son cerveau, dont l'énergie était diminuée, mais non point la clarté. Il cherchait dans ses actes passés la cause de ce châtiment que le Tout-Puissant lui infligeait. Affaibli, il devenait pieux. Il pensait au jugement. Mais les orgueilleux se font facilement la conscience pure. Valois ne découvrait presque rien qu'il eût à se reprocher. En toutes ses campagnes, en tous les pillages et massacres qu'il avait ordonnés, en toutes les extorsions qu'il avait fait subir aux provinces conquises et délivrées par lui, il estimait avoir toujours bien usé de ses pouvoirs de chef et de prince. Un seul souvenir lui était objet de remords. Une seule action lui semblait l'origine de son actuelle expiation. Un seul nom s'arrêtait à ses lèvres lorsqu'il faisait l'examen de sa carrière. Marigny. Car il n'avait en vérité jamais haï personne, sauf Marigny. Pour tous les autres qu'il avait malmenés, châtiés, tourmentés, expédiés à la mort, il n'avait jamais agi que convaincu d'un bien général qu'il confondait avec ses propres ambitions. Mais dans sa lutte contre Marigny, il avait apporté tout le bas acharnement qu'on peut mettre à une querelle privée. Il avait menti sciemment en accusant Marigny. Il avait porté faux témoignages contre lui et suscité de fausses dépositions. Il n'avait reculé devant aucune bassesse pour envoyer l'ancien coadjuteur et recteur général du royaume, plus jeune alors qu'il ne se trouvait à présent lui-même, se balancer à Montfaucon. Rien ne l'avait guidé en cela que le besoin de vengeance et la rancœur d'avoir vu jour après jour un autre disposer en France de plus de puissance que lui. Et voilà que maintenant, assis dans la cour de son manoir du Perret, observant les oiseaux passer, regardant les écuyers sortir les beaux chevaux qu'il ne montrait plus, Valois s'était mis, le mot surprenait lui-même, mais il n'y en avait pas d'autre, il s'était mis à aimer Marigny, à aimer sa mémoire. Il aurait voulu que son ennemi fût encore vivant afin de pouvoir se réconcilier avec lui et lui parler de toutes choses qu'ils avaient connues, vécues ensemble, et sur lesquels il s'était tant opposé. Son frère aîné, Philippe le Bel, son frère Louis d'Evreux, ses deux premières épouses même, tous ces disparus lui manquaient moins que son ancien rival. Et au moment où il ne se croyait pas observé, on le surprenait à marmonner quelques phrases d'une conversation tenue avec un mort. Chaque jour, il envoyait un de ses chambellans, muni d'un sac de monnaie, faire aumône aux pauvres d'un quartier de Paris, paroisse après paroisse. Et les chambellans étaient chargés de dire, en déposant les pièces dans les mains crasseuses, « Priez, bonnes gens, priez Dieu pour Monseigneur Enguerrand de Marigny et pour Monseigneur Charles de Valois. » Il lui semblait qu'il s'attirerait la clémence du ciel si, dans une même prière, on l'unissait à sa victime. Et le peuple de Paris s'étonnait de ce que le puissant et magnifique seigneur de Valois demanda d'être nommé auprès de celui qu'il proclamait jadis coupable de tous les malheurs du royaume et qu'il avait fait pendre aux chaînes du gibet. Le pouvoir, au conseil, était passé à Robert d'Artois, qui, par la maladie de son beau-père, se trouvait soudain promu au premier rang. Le géant parcourait fréquemment, les étriers chaussés à fond, la route du Perret pour aller demander un avis aux malades. Car chacun s'apercevait, et d'Artois tout le premier, du vide qui s'ouvrait brusquement à la direction des affaires de la France. Certes, Monseigneur de Valois était connu pour un prince assez brouillon, tranchant de tout sans souvent réfléchir assez, et gouvernant d'humeur plutôt que de sagesse. Mais d'avoir vécu de cour en cour, de Paris en Espagne et d'Espagne à Naples, d'avoir soutenu les intérêts du Saint-Père en Toscane, d'avoir participé à toutes les campagnes de Flandre, d'avoir intrigué pour l'Empire et d'avoir siégé pendant plus de 30 années au conseil de 4 rois de France, lui était venue l'habitude de replacer chaque souci du royaume dans l'ensemble des affaires de l'Europe. Cela s'opérait en son esprit presque de soi-même. Robert d'Artois, féru de coutume et grand procédurier, n'avait point d'aussi vaste vue. Aussi, l'on disait du comte de Valois qu'il était le dernier, sans bien pouvoir vraiment préciser ce que l'on entendait par là, sinon qu'il était le dernier représentant d'une grande manière d'administrer le monde, et qui allait sans doute disparaître avec lui. Le roi Charles le Bel, indifférent, se promenait d'Orléans à Saint-Mexan et Châteauneuf-sur-Loire, attendant toujours que sa troisième épouse lui donnât la bonne nouvelle d'être enceinte. La reine Isabelle était devenue, pour ainsi dire, maîtresse du palais de Paris, et c'était une seconde cour anglaise qui se tenait là. La date de l'hommage avait été fixée au 30 août. Édouard attendit donc la dernière semaine du mois pour se mettre en voyage, puis pour feindre de tomber souffrant en l'abbaye de Sandown, près de Douvres. L'évêque de Winchester fut envoyé à Paris pour certifier sous serment, s'il en était besoin, mais ce qu'on ne lui demanda pas, la validité de l'excuse, et proposer la substitution du fils au père, étant bien entendu que le prince Édouard, fait duc d'Aquitaine et comte de Ponthieu, apporterait les 60 000 livres promises. Le 16 septembre, le jeune prince arriva, mais accompagné de l'évêque d'Oxford et surtout de Walter Stapledon, évêque d'Exeter et lord trésorier. En choisissant celui-ci, qui était l'un des plus actifs, des plus âpres partisans du parti des Spencer, l'homme aussi le plus habile, le plus rusé de son entourage et l'un des plus détestés, le roi Édouard marquait bien sa volonté de ne pas changer de politique. L'évêque d'Exeter n'était pas chargé seulement d'une mission d'escorte. Le jour même de cette arrivée, et presque au moment où la reine Isabelle serrait dans ses bras son fils retrouvé, on apprit que Monseigneur de Valois avait fait une rechute de son mal, et qu'il fallait s'attendre à ce que Dieu lui reprît l'âme d'une heure à l'autre. Aussitôt, la famille entière, les grands dignitaires, les barons qui se trouvaient à Paris, les envoyés anglais, tout le monde se précipita au Perret, sauf l'indifférent Charles le Bel, qui surveillait à Vincennes quelques aménagements intérieurs commandés à son architecte Pinfétise. Et le peuple de France continuait à vivre sa belle année 1325.